et toute seule sur un banc. Je te regarde passer, c'est une histoire qui n'en finit plus de ne jamais commencer, et toute seule sur un banc. Je te regarde passer.
Écoutez CLS FM, votre radio communautaire.
Le projet Cap Ouest, rendu possible grâce à l'appui financier du Fonds canadien des radios communautaires, vous est présenté par les stations
CFRG 93.1 FM, La Voix des Prairies, Gravelbourg. CHPL 92.1 FM, Plamondon. CIBR Radio Taïga, 103.5 Yellowknife.
Et CILS 107.9 FM, Victoria.
Bienvenue dans cette édition de Sport et Santé Magazine, une émission hebdomadaire diffusée à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale dans les prairies et l'ouest canadien. Mon nom est Alexis Gagnon. Outre les deux revues de presse des actualités des derniers jours, aujourd'hui, je serai principalement en compagnie de Marie-Hélène Bourret cette semaine, avec qui je parlerai d'abord du champion de ski alpin Éric Gay qui s'est illustré récemment en Europe, de la championne de cyclisme néo-brunswickoise Ellen Waters, décédée récemment dans un accident de la route. D'ailleurs, nous soulignerons à propos de cet accident les mesures qui ont été prises par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Et dans le versant santé et mieux-être de l'émission, Marie-Hélène et moi allons revenir sur la crise des surdoses aux opioïdes qui a fait tant de morts en Colombie-Britannique en 2016 et continue de sévir sévèrement chez nous, mais aussi dans les autres provinces canadiennes et même à l'échelle du monde entier. C'est un témoignage personnel que nous livrera cette semaine Marie-Hélène, le récit d'une expérience qu'elle a vécue récemment. Bonne émission à tous. Bienvenue à bord de Sport et Santé Magazine, la revue de presse sportive est dominée cette semaine par le hockey. La LNH, en effet, a connu une semaine riche en rebondissements. On va commencer par le congédiement de l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Michel Therrien, qui a été licencié par le directeur général, Marc Bergevin, il y a quelques jours. Commençons par le principal intéressé, Michel Therrien. Donc, il a indiqué sur le portail RDS et dans d'autres médias qu'il quittait la tête haute. L'ex-entraîneur-chef du Canadien, selon cet article, licencié il y a quelques jours à peine, après 5 saisons passées avec le Canadien de Montréal, a réagi pour une première fois à son congédiement. Dans un communiqué qu'il a fait parvenir aux médias, Michel Therrien a d'abord remercié l'organisation du Canadien, particulièrement son président, Jeff Molson, et le directeur général, Marc Bergevin. Il a rappelé à quel point le poste d'entraîneur dans la Ligue nationale est exigeant exigeant et gratifiant, mais aussi bien souvent ingrat. Michel Therrien a terminé en disant quitter la tête haute, extrêmement fier du travail accompli, tout en souhaitant bonne chance à son successeur, Claude Julien. Alors Claude Julien, vous le savez, avait été congédié lui-même par les Bruins de Boston il y a quelques temps, c'est encore tout récent. Il était sans emploi. Le téléphone a sonné tout de suite, c'était le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, qui lui offrait le poste d'entraîneur-chef. Alors allons directement dans l'article que signe Mathias Brunet dans le journal La Presse. Claude Julien, ça m'excite de revenir à Montréal, donc c'est le titre de cet article de Mathias Brunet. Claude Julien n'avait pas l'intention d'accepter l'offre d'une équipe de la Ligue nationale de hockey avant le printemps. Question de digérer son congédiement récent par les Bruins de Boston et question aussi de choisir la meilleure destination possible dans la LNH. Puis, l'appel de Marc Bergevin est arrivé. Ça me prenait une situation idéale pour revenir rapidement et le Canadien représente cette situation idéale, a admis le nouvel entraîneur-chef du CH lors d'une conférence de presse téléphonique. La bonne relation qu'il entretient avec le DG Marc Bergevin a pesé lourd dans la balance, a-t-il dit. Claude Julien a d'ailleurs souligné cet aspect en tout premier lieu. J'ai eu l'occasion de travailler avec Marc, a-t-il dit, lors de la Coupe du Monde et j'ai eu une belle connexion avec lui. C'est un bon directeur général et une bonne personne. C'est un élément clé car j'ai l'intention de travailler étroitement avec lui. En plus, j'aime la direction dans laquelle cette équipe se dirige. Pour moi, le but est de maximiser le potentiel en place et de se donner une chance de gagner au plus haut niveau. Sans donner trop de détails, Claude Julien a admis qu'il avait été approché par quelques équipes au cours des dernières semaines. Il voulait travailler avec Marc Bergevin, retrouver un gros marché de hockey et il avoue qu'il aime beaucoup le potentiel du CH actuellement. « Je prends une équipe de première place », a-t-il souligné. « Ils ont de très bons joueurs. Même s'ils ont connu des moments difficiles dernièrement, on ne peut pas oublier leur bon moment en début de saison. Dans mon esprit, c'est une équipe avec le meilleur gardien au monde, Carey Price, de bons défenseurs et beaucoup de talent à l'avant. Et même s'il ne marque pas, on verra si c'est une question de confiance ou de style de jeu. J'aurais pu me présenter à l'aréna dans un marché plus tranquille, puis rentrer à la maison après le travail. J'aime les défis que représente un marché comme celui de Montréal. Claude Julien a signé un contrat qui couvrira la présente saison et les 5 suivantes. Donc c'est un contrat longue durée que l'entraîneur Claude Julien a signé avec le Canadien de Montréal. Et cet article se poursuit sur plusieurs paragraphes. C'est une analyse de fond de cette nouvelle qui en a surpris plusieurs au cours des derniers jours. Donc Claude Julien, le nouvel entraîneur du Canadien. Le titre de cet article de Mathias Brunet, Claude Julien, ça m'excite de revenir à Montréal, c'est dans la presse. Sinon, de retour sur le portail rds.ca, c'est un moment important dans la carrière de Sidney Crosby et dans l'histoire des Penguins de Pittsburgh. Sidney Crosby a enregistré son 1000e point dans une victoire des Penguins de Pittsburgh il y a quelques jours. Sidney Crosby a conclu sa soirée de rêve en marquant en prolongation pour procurer une victoire de 4-3 aux Penguins de Pittsburgh contre les Jets de Winnipeg jeudi soir. Crosby a profité d'une spectaculaire manœuvre individuelle d'Evgeny Malkin pour pousser la rondelle dans un filet laissé libre par le gardien Connor Hellebuyck alors qu'il ne restait que 21 secondes à jouer en prolongation. Plus tôt dans la rencontre, le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Crosby évidemment, avait inscrit son 1000e point en carrière dans la LNH. Alors c'est vraiment une soirée de rêve. 1000e point inscrit et but gagnant en prolongation à 21 secondes de la fin du match. Donc c'est une belle soirée pour les Penguins au cours de laquelle Sidney Crosby a atteint le plateau des 1000 points. C'est un plateau qu'il partage chez les Penguins avec deux autres joueurs de légende, à savoir Mario Lemieux et Jaromír Jágr. Crosby est âgé de 29 ans. Il est natif de Cold Harbor en Nouvelle-Écosse. Il en est à sa 12e saison déjà dans la LNH. 12 saisons passées, bien sûr, avec les Penguins de Pittsburgh. Alors, Crosby a des successeurs qui se pointent à l'horizon, des jeunes qui ont au moins autant de talent, et peut-être plus, l'histoire le dira. Connor McDavid, ce nom vous dit sans doute quelque chose. Il a repris le sommet des marqueurs dans la LNH à la faveur d'une victoire de son équipe, les Oilers d'Edmonton contre les Flyers de Philadelphie. Ça s'est réglé au compte de 6-3 jeudi soir. C'est rapporté dans le portail rds.ca. Donc McDavid qui reprend la tête des marqueurs dans la LNH. Il a maintenant 66 points. Tout juste devant Sidney Crosby, le vétéran. Donc, c'est une lutte serrée qui va se poursuivre jusqu'à la toute fin de la saison. Toujours dans la LNH, c'est confirmé, l'attaquant des Ducks d'Anaheim, Antoine Vermette, a été suspendu pour 10 rencontres par la LNH en raison d'un contact physique interdit avec un arbitre. La LNH a confirmé la nouvelle jeudi. Antoine Vermette avait enfreint le règlement 40.3 de la LNH quand il a donné un coup de bâton derrière une jambe du juge de ligne Chandor Alfonso après qu'il eut perdu une mise en jeu face au capitaine du Wild du Minnesota, Mikko Koivu, lors de la troisième période de la victoire 1-0 des Ducks. Le Québécois de 34 ans, donc Antoine Vermette, qui n'avait jamais été suspendu auparavant par la LNH, et cela en 13 saisons passées dans la Ligue nationale, a agi sous le coup de la frustration, puisque le juge de ligne apparemment avait laissé tomber la rondelle de mise en jeu avant qu'Antoine Vermette ait pu placer son bâton sur la glace. Donc, une frustration soudaine qui lui a fait poser ce geste irréfléchi. Il a été suspendu 10 matchs par la LNH. C'est une mesure qui est automatique lorsqu'un joueur s'en prend à un arbitre. Sinon, dans les colonnes de l'agence de presse Sportcom, on apprend que les Montréalais Tessa Virtue et Scott Moore ont remporté il y a quelques jours, pour la troisième fois de leur carrière, les championnats des quatre continents à Gangneung, en Corée du Sud. Alors, on parle de danse sur glace. C'est la discipline dans laquelle s'illustre ce couple d'athlètes du patinage artistique. Tessa Virtue et Scott Moore, ce sont des Canadiens originaires de Montréal et ils viennent de s'illustrer en Corée. Et bien sûr, ça donne de bons signes sur leur niveau à l'approche des Jeux d'hiver de Corée qui se dérouleront l'année prochaine en 2018. Donc le titre de cet article Sportcom, Virtue Moore, sacré champion des quatre continents, les Canadiens brillent de tous leurs éclats en Corée du Sud. On va passer au golf à présent. Petite nouvelle très rapidement à propos de la Sherbrookeoise Maud Aimé Leblanc. Elle est aux antipodes actuellement en Australie. Elle a joué l'une des meilleures rondes de la journée à l'Omnium féminin d'Australie, ce qui lui a permis de se rapprocher de la tête et de prétendre remporter ce tournoi peut-être. Donc pour le moment, elle se place sixième. Elle a joué l'une des meilleures rondes, rapporte Associated Press, et on va continuer de suivre cette athlète qui est très prometteuse. Donc Maud Aimé Leblanc de Sherbrooke en golf. Autrement, à propos des Jeux Olympiques, rapidement, la candidature de Budapest en Hongrie vacille, c'est rapporté par Agence France Presse. La mairie de Budapest a évoqué vendredi un possible retrait de la course à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024, alors que des opposants ont annoncé avoir recueilli largement assez de signatures pour déclencher l'organisation d'un référendum contre cette candidature. Donc il y a un dispositif démocratique qui pourrait être déclenché de la part de la société civile pour contester l'organisation des Jeux de Budapest 2024. Le maire de Budapest a indiqué qu'il se rendrait à la volonté populaire. Donc c'est rapporté dans le fil de l'agence France Presse. Voilà qui conclut le tour d'horizon des actualités sportives pour cette semaine. Petite pause musicale avec l'auteur, compositrice, interprète Sally Folk qui chante une chanson intitulée 9 à 5. Au retour, nous avons deux nouvelles chroniques de Marie-Hélène. À tout de suite.
Prête-moi ta plume pour retrouver la joie. Prête-moi ta folie pour supprimer l'ennui. Prête-moi la fatigue, j'éviterai le matin. Je dois aller travailler, je n'ai rien, je n'ai rien. Prête-moi l'illusion d'avoir bien réussi sur cette théorie pour gérer les envies. Prête-moi l'impression que j'ai fait mon chemin et j'irai travailler. Tout va bien, tout va bien. Mon 9 à 5 est bien stable, toujours on me voit aimable, mais derrière mes verres, je fantasme la galère. Mon 9 à 5 est bien stable, même s'il est désagréable, 40 heures par semaine. Enfin la fin de semaine, enfin la fin de semaine, 40 heures par semaine, j'attends la fin de semaine, enfin la fin de semaine. Prête-moi l'aventure pour me redémarrer. Après l'ambivalence, goûter la liberté d'une journée à l'autre. Verse-moi ce congé avant d'aller travailler. Je tâcherai d'oublier. Mon 9 à 5 est bien stable, on me dit irréprochable. Mais quand je prends un verre, je m'amuse à déplaire. Mon 9 à 5 est bien stable, alors je garde le moral. 40 heures par semaine. Enfin la fin de semaine, enfin la fin de semaine, 40 heures par semaine, j'attends la fin de semaine, enfin la fin de semaine, enfin la fin de semaine, enfin la fin de semaine, 40 heures par semaine, j'attends la fin de semaine, enfin la fin de semaine.
Marie-Hélène, bonjour.
Allô Alexis.
On parle de glisse aujourd'hui.
Absolument.
On se dirige vers les plus hauts sommets.
Et on espère en descendre de ces plus hauts sommets rapidement aussi.
Oui, puis ne pas trop s'esquinter.
Ouais.
Alors, on parle d'un grand champion canadien de ski.
De ski, Éric Guay.
Éric Guay.
Alors, il est connu pour les championnats du monde, en fait. Éric Guay, 35 ans, qui aurait pu facilement être un has-been, hein?
Oui.
Parce que dans ce genre de sport-là, très rapidement, les genoux, on parle de ski, donc descente en ski, les genoux vont souvent prendre un méchant coup, et non seulement de par le sport lui-même, mais par les accidents qui arrivent malheureusement très souvent. Alors, Guay est né à Montréal. Il s'illustre notamment dans les disciplines de vitesse que sont la descente et le super-G.
Oui.
Il a notamment...
Né en 81.
81, donc il a 35
ans. C'est 35. Important parce que c'est pas une petite jeunesse.
Oui, c'est ça que je disais au début, il a 35 ans. Il a notamment obtenu deux titres de champion du monde. Le premier en descente en 2011 à Garmisch-Partenkirchen.
Oui.
Et le second au super-G en 2017. Ça s'est passé donc cette semaine.
Il y a quelques jours.
Et il obtient moins de succès aux Jeux olympiques avec, pour meilleur résultat, une quatrième place en super-G.
Ah.
2006, mais quand même, écoute, quatrième aux Jeux olympiques.
Tout de même, oui.
Bon. Quatrième meilleur au monde. Hein?
C'est énorme.
Ouais. Alors, en Coupe du monde, il est monté à 21 reprises sur un podium pour 5 victoires et a emporté le globe de cristal du Super-G en 2010. Alors, il dit lui-même que l'une des raisons pour lesquelles il est si rapide ou qu'il est si à l'aise sur les descentes,
oui,
c'est qu'il est né dans une famille de skieurs. Son frère a fait partie de l'équipe du Québec, puis de l'équipe nationale du Canada, ça c'est Christian, comme son petit frère aussi Stéphane Guay. Les trois frères ont été membres du club de ski du Mont-Tremblant. Sa mère Hélène est monitrice au Mont-Tremblant, son père Conrad a entraîné l'équipe du Québec féminine ainsi que l'équipe nationale.
Ah.
Alors, Éric lui-même effectue sa première descente de FIS le 30 novembre 1996 lors d'un slalom géant à Mont-Tremblant, prenant la 10e position. Alors déjà, c'est sa première compétition. et il est au 10e rang, ce qui oui. donne une bonne idée de sa performance. Il participe aussi cette même année, donc en 2017, à sa première Coupe du Monde. Et donc, il est dans l'antichambre de la Coupe du Monde.
Oui.
Alors, en fait, moi, ce que je retiens beaucoup de lui, c'est que il a continué, parce que souvent, dans ce niveau de performance-là, il y a un âge
hein, oui.
que l'on atteint,
oui.
que le corps ne peut, que peut difficilement dépasser. Et il a continué à faire de la compétition, à faire de la Coupe du Monde. Il y a tout un palmarès de combien de fois, on l'a dit 21 fois, là, qui a fait de la Coupe
oui,
du Monde.
Oui, oui.
Mais il a continué et il a gagné l'or. Et ce qu'on sait aussi, c'est que, et il ne faudrait pas l'oublier parce qu'on parle d'Éric Gay, mais qu'il y a son compatriote, notre compatriote Manuel Osborne Paradis, qui a été médaillé bronze. Donc, il
oui.
y avait deux Canadiens, deux Québécois sur le podium.
Ce mois-ci,
oui.
Lors du triomphe d'Éric Gay, oui. Manuel Osborne Paradis était également, a participé lui aussi à la victoire. Donc, c'était
oui.
un doublé Canadien sur le podium.
Absolument.
Manuel était sur la troisième marche du podium. Éric Gay, qui est d'ailleurs passionné de course automobile aussi dans la vie.
Course automobile, c'est un grand sportif.
C'est pas étonnant.
J'ai vu ce qu'il avait comme... comme hobby. Donc, il y avait la course automobile, mais il y avait aussi des choses qui ont à faire à la vitesse.
Oui, évidemment.
Et j'imagine que ça doit être, parce que moi-même, je ne veux pas excuser, je suis un petit peu trop moumoune pour ça, mais j'imagine que l'adrénaline, parce qu'on parle souvent d'adrénaline, toi et moi, mais j'imagine que l'adrénaline...
c'est drôle, ça revient. Hein?
Ouais, c'est quelque chose encore là, non seulement l'adrénaline de la compétition, de la victoire, mais aussi de la vitesse pour les gens qui font ce niveau de compétition. Il faut savoir aussi que lors de ses dernières compétitions, il s'est blessé. Il a fait une chute spectaculaire.
Oui, c'est ça, le hiatus entre son triomphe de 2011 et
oui.
son triomphe de 2017. Il y a eu des blessures, des doutes sûrement
oui.
aussi. On avance dans la trentaine,
oui.
on se pose des questions. Les gens autour de soi commencent à douter.
Oui.
Il a des enfants.
Il a trois enfants.
Oui.
Il est marié, il a trois enfants.
Voilà.
Qui font sûrement du ski, j'imagine.
Oui, sûrement. Mais voilà, ça devient...
Mais c'est ça, je pense que c'est peut-être le moment, et je ne voudrais pas commencer une discussion ici là-dessus, mais je pense qu'à 35 ans, avec une médaille du monde, de la Coupe du monde, je pense que...
Oui. Un titre de champion du monde.
Un titre de champion du monde, pardon. Je pense qu'il
Deuxième.
Peut facilement s'asseoir sur ses lauriers maintenant et sur son hématome sévère qu'il a eu à la fesse
oui.
une couple de semaines. qui l'a fait se retirer d'ailleurs d'une course.
Mélanie Turgeon, qui est une grande championne de ski canadienne, qui a pris sa retraite il y a quelques années,
mm-hmm.
est vraiment épatée par la récente performance
ouais.
d'Éric Gay. Elle, qui en a vu d'autres,
ouais.
le compare à un skieur suisse, un grand champion suisse, Didier Cuche,
mm-hmm.
qui lui aussi avait réussi à demeurer au sommet durant la trentaine et même la fin trentaine,
mm-hmm.
Ce qui n'est pas donné à tous les athlètes qui font de la descente et du super G. Alors, c'est un mélange de technique, de persévérance et sans doute de dons innés aussi.
Et d'expérience.
D'expérience.
Ouais. Et mais ces gens-là gagnent avec des millièmes de centièmes de seconde.
Donc, Mélanie Turgeon... disait qu'il ressemblait à Didier Cuche. Et je te donne sa citation. « Éric est père de famille, il ne rajeunit pas. Il aurait pu décider de jouer la carte de la prudence. Au contraire, il a attaqué le parcours de Saint-Moritz sans afficher la moindre crainte et il a été récompensé avec cette éclatante victoire devant le grand favori norvégien.
Ouais.
C'est comme si rien ne s'était passé à Garmisch, donc sa chute de Garmisch au début de l'hiver, qui était spectaculaire. On l'a regardé sur YouTube. une chute qui lui avait fait pousser un cri de frayeur.
Ben peut-être. Écoute, il aurait pu se casser une vertèbre, une ouais. jambe, un fémur. Et souvent, c'est ça, c'est la chute, mais aussi l'impact qu'il va avoir avec... Parce qu'ils ont des espèces de garde-fous ouais. chaque côté, ouais. et ils peuvent se plier à l'envers là-dessus facilement.
Un autre sport extrême, quoi. Mais lui, ouais,
admis dans le
panthéon ouais, olympique, c'est etc.
Ça, c'est ça. Mais... Je me demande ce que les dieux de l'Olympe en penseraient du ski.
Merci Marie-Hélène.
Au revoir.
Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Alex.
Nous sommes toujours dans la portion sport de l'émission Sport et Santé Magazine. On se retrouve pour cette deuxième chronique de l'émission. On parle d'une athlète qui s'est illustrée en cyclisme.
En cyclisme et qui malheureusement est décédée à la fin de l'année 2016. Son D'accord. nom c'est Helen Waters. C'était vraiment une étoile montante du cyclisme. Elle était née au Brunswickoise. Elle venait oui. donc du Nouveau-Brunswick. Et elle a été frappée par une auto. Alors, elle était en entraînement sur une route au Nouveau-Brunswick. Et le 23 décembre, elle roulait avec sa gang là, qui faisait
elle
un entraînement.
En groupe.
Elle roulait en groupe. Ça s'est produit en plein milieu de l'après-midi, faisant encore clair. Donc, on sait au mois de décembre, il fait noir rapidement. Mais à 14h30, il fait clair encore. Mm-hmm. Les conditions météorologiques, selon ce que la police a donné, étaient quand même favorables. Elle a été hospitalisée à Lorenzlam, pas longtemps après. Et puis, l'accident a été comme pour beaucoup de cyclistes, surtout l'impact sur la tête. Mm. Évidemment, elle a porté un casque, là. Je veux dire, c'est une professionnelle, elle porte un casque. Mais ces gens-là roulent vite. Ils sont pas protégés, à part évidemment le casque, et les autos, souvent qui les frappent, ils roulent pas à une vitesse minimale, là. Ils roulent trop vite, c'est pour ça qu'ils les frappent. Donc c'est quand même, on dit qu'elle était une étoile montante, on dit qu'elle avait une personnalité que tout le monde, parce que j'ai lu 2-3 articles sur elle, disait qu'elle était très géviale, qu'elle était quelqu'un qui entraînait les autres. Alors, elle a fait des études même en kinésiologie. Elle a déménagé en Ontario pour intégrer le programme de course d'Ottawa, le Cyclery. Alors, C-Y-C-L-E-R-Y, peut-être Cyclery. Je ne sais pas en anglais. Elle avait même décroché un contrat avec la formation américaine Colavita Bianchi pour la saison 2017.
Ah oui,
alors, elle avançait rapidement, là. Elle avait été sélectionnée récemment par l'équipe canadienne de développement.
Mm-hmm.
Elle avait décroché, donc en 2016, le bronze lors du critérium des championnats canadiens de cyclisme sur route. Mm. Elle avait remporté des événements pro-am au Tour cycliste de Battenkill dans l'État de New York et de Somerville au Massachusetts. Alors,
c'est une perte.
C'est vraiment une perte, évidemment personnelle pour les gens qui l'ont connue, mais aussi pour le sport canadien, parce qu'elle avait vraiment... comme on a vu tantôt, 28 ans avant qu'on commençait à considérer 28 ans, comment ça dit, mais plus maintenant. Elle était au début de sa carrière à 28 ans. Et cet accident-là a... comme forcer un peu la main, je pense, au gouvernement du Nouveau-Brunswick faire une loi qui a été déposée d'ailleurs le 17 février, hier pour nous.
Oui.
Et c'était pour forcer les automobilistes à faire preuve de plus de prudence. Alors, je vais te dire qu'est-ce que c'est la loi, et tu vas me dire, oui, mais c'est parce que c'est comme ça depuis longtemps ailleurs. Alors, ils appellent la loi d'Helen, Helen's Law, et ça force les automobilistes à laisser au moins 1 mètre entre eux et les cyclistes avant d'effectuer un dépassement.
Oui.
Alors, c'est pas juste une question, parce que j'ai travaillé à la Société d'assurance automobile et on a appris...
Du Québec,
du Québec, on a appris les mécanismes d'un accident.
Mm-hmm.
Alors, il n'y a pas seulement le fait d'accrocher ou de frapper le cycliste. Il y a aussi le fait que le déplacement d'air va, s'il est assez important, déstabiliser le cycliste qui souvent risque de passer en dessous la voiture qui suit. Alors, la famille d'Hélène Waters, évidemment, était là. Et ils étaient très contents de ça, parce qu'ils ont dit Hélène aurait aimé ça. Mais dans cette loi-là, il y a vraiment quelque chose d'important, c'est que on réapprend aux cyclistes, aux automobilistes à dépasser des cyclistes. Alors, on leur dit, tu as besoin d'un mètre au moins pour dépasser. On te permet de t'engager sur la ligne du milieu, même si c'est une double ligne que normalement tu n'es pas supposé de dépasser. Dans le cas des cyclistes, on te le permet. Il y a une perte de 3 points d'inaptitude et une amende de 172 $ si tu ne laisses pas ce mètre-là.
Toujours au Nouveau-Brunswick.
Toujours au Nouveau-Brunswick, effectivement. Et j'ai cherché un petit peu plus loin et j'ai vu que dans ces accidents-là, il y a beaucoup dans les statistiques de véhicules lourds qui sont impliqués. Deux raisons.
Surtout en ville,
Oui, surtout en ville.
Oui.
Deux raisons très importantes, très simples, c'est que le véhicule lourd, souvent, le chauffeur, le conducteur du véhicule lourd est plus haut.
Mm-hmm.
Donc, s'il est très près du cycliste, il ne le voit pas.
Il le perd de vue.
Il y a un angle mort. Il y a un angle mort qui est beaucoup plus important que dans une voiture. Et il y a, comme je te disais aussi, l'histoire du déplacement d'air.
Mm-hmm.
Mais il y a d'autres choses. C'est que le cycliste, souvent, est happé par le véhicule lourd et passe en dessous du véhicule. Mm-hmm. Et non seulement...
Aspiré
sous le véhicule.
Ouais.
Il y a d'autres pays qui font d'autres choses. En Allemagne, par exemple, il y a une loi qui oblige les véhicules lourds à avoir une jupette.
Oui.
Donc, autant pour les cyclistes que pour les piétons, ça empêche beaucoup de morts. Aux intersections, donc, comme je l'ai dit, on les voit moins. C'est là qu'il y a 62 des accidents qui sont causés.
62%.
D'accord. C'est ça.
Ce qu'il faut construire aussi, c'est des routes qui ont un bas-côté, non, un espace plus large sur le côté pour les cyclistes. Peut-être pas à proprement parler des pistes cyclables. Bon, c'est sûr qu'on en souhaite toujours plus, un plus grand nombre de pistes cyclables.
Mais un accotement
partout.
Plus large.
C'est ça, un accotement, merci, plus large, qui va accroître énormément la sécurité des cyclistes.
Oui, parce que si, là, on a parlé de surtout en ville, dans les intersections, mais si tu es à la campagne...
Voilà, souvent la ligne blanche est à côté du gravier et le cycliste doit circuler sur la ligne blanche en espérant que l'automobiliste sera, lui, en mesure de le repérer et de s'écarter un peu. Il n'y a pas d'accotement, il n'y a pas de bitume. C'est,
Et même si, aux
surtout
endroits
dans les
où
petites
y a...
routes de campagne.
Et même quand tu as un accotement qui est un peu plus large, souvent, il y a du gravier dessus. Ce qui est étranger,
il y a des
on peut glisser.
Poules,
là,
sur le côté.
On peut glisser facilement pour un cycliste. Et encore là, il n'y a pas beaucoup de protection. La vitesse n'est pas seulement due au vélo lui-même, mais il est due aussi à l'automobiliste. On sait que quand il y a deux véhicules qui soient en vélo ou en auto qui se frappent, eh bien, il faut multiplier la vitesse.
Oui.
Alors, si c'est un face-à-face, que la voiture roulait à 100 km/h et le cycliste, mettons, à 50 km/h, bien, ça fait une vitesse d'impact de 150 km/h. C'est comme si toi, tu es lancé par un canon à 150 km/h et tu frappes le bitume, là. Alors, il y a toutes sortes de types de blessures. Il y a toujours les blessures à la tête qui sont importantes, les os, évidemment.
Les fractures.
Les fractures, la colonne vertébrale.
D'accord. Bon, à méditer. En tout cas, triste événement.
Oui.
Lourde perte pour le cyclisme canadien. Et dans ces occasions-là, évidemment, c'est une occasion de conscientisation puis de progrès de la législation. Oui. Donc, on peut...
À quelque chose, malheur est bon.
Voilà. Merci, Marie-Hélène.
Plaisir.
Écoutions à l'instant la pièce Rex de l'artiste Paupière. C'est le moment d'ouvrir le volet santé de l'émission. Un coup d'œil d'abord aux actualités santé et mieux-être des derniers jours. J'ai rassemblé pour vous quelques articles repérés ici et là sur la toile. On va commencer avec une nouvelle de saison. On parle de neige. Alors, cette neige, elle peut causer des crises cardiaques plus nombreuses, c'est ce que révèle une étude récente au Québec. Plus de neige, plus de crises cardiaques, c'est le titre de cet article signé Boris Prou dans le Journal de Montréal. Une bordée de 20 cm de neige comme celle tombée récemment augmente le risque de mourir d'une crise cardiaque de près du tiers, révèle une nouvelle étude québécoise. On a trouvé qu'il y a un lien entre la quantité de neige tombée et le risque d'hospitalisation et de décès pour crise cardiaque, surtout chez les hommes, a résumé la chercheuse Nathalie Auger, qui travaille au centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal.
Elle est aussi co-auteure de l'étude. Donc, il s'agit d'une corrélation directe, d'une relation directe. L'étude a d'ailleurs fait l'objet d'un article dans le prestigieux New York Times. Cette étude avait été réalisée à l'aide d'analyses de données d'hôpitaux sur une durée de 33 ans entre 1981 et 2014. En tout, 128 000 hospitalisations et 68 000 décès ont été étudiés dans le cadre de l'étude pour établir le niveau de risque des chutes de neige. Donc, plus de neige, plus de crises cardiaques. C'est le lien direct qui a été établi dans cette étude. C'est dans le Journal de Montréal. Toujours dans le Journal de Montréal, sous la plume de la journaliste Annabelle Blais, un médicament anti-tabac qui pourrait aussi aider les alcooliques. D'abord conçu pour aider les gens à arrêter de fumer, un médicament pourrait aussi être bénéfique pour traiter les personnes aux prises avec des problèmes d'alcoolisme, selon une chercheuse de l'Université Concordia. Commercialisé au Canada depuis 2007, le médicament en question, Champix, est prescrit pour aider les fumeurs à écraser la cigarette. Il agit sur les récepteurs du système nerveux en bloquant les effets de la nicotine. Or, une chercheuse de l'Université de Concordia, Nadia Chaudhry, s'est plutôt intéressée aux effets du médicament sur l'alcoolisme. Elle a étudié les effets de la varenicline, qui se retrouve dans ce médicament, le médicament Champix, sur les rats. Et il semble que ces résultats montrent que le médicament pourrait aussi aider les alcooliques à résister à la tentation. C'est dans le Journal de Montréal, un médicament anti-tabac pourrait aussi aider les alcooliques. Dans les colonnes de l'agence France-Presse, cette fois, un bébé dont le cerveau croît trop vite a plus de risques d'être autiste. Les enfants dont le cerveau grossit plus vite que la moyenne au cours de leur première année ont davantage de risques d'être diagnostiqués comme autistes à l'âge de 2 ans, selon une étude parue dans la revue Nature. L'équipe de chercheurs a étudié par imagerie médicale le cerveau de 106 bébés ayant un frère ou une sœur atteint de troubles relevant de l'autisme, ainsi que 42 bébés sans cas d'autisme dans la famille. Chez les enfants du groupe à haut risque, qui ont par la suite été diagnostiqués autistes, la surface du cortex, à savoir la couche superficielle du cerveau, a connu une croissance plus rapide que chez les autres enfants, ont observé les chercheurs qui sont basés aux États-Unis et au Canada. Le fait que les enfants autistes ont souvent un cerveau plus volumineux que la moyenne a déjà été décrit par des scientifiques dans le passé. Mais le moment où cette différence de taille apparaît et le lien avec la manifestation des symptômes de l'autisme n'est pas encore établi, indique cet article de l'agence France-Presse. L'étude devra donc être répétée à une plus grande échelle pour déterminer si cet indicateur de la croissance de taille du cerveau peut être considéré comme un outil clinique de détection précoce chez les populations à risque élevé d'autisme. On parle de Zika à présent, c'est dans le journal Le Soleil. Zika, future maman, éviter le sud. C'est sous la plume du journaliste Baptiste Ricard Châtelain. Même si elle rage contre le froid, écrit-il, les femmes enceintes et celles qui se projettent dans la maternité devraient remettre en question tout voyage dans les Amériques, préconise la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, la SOGC. Le virus Zika, écrit le journaliste, n'est pas mort. À l'heure où bon nombre de Canadiens et de Canadiennes rêvent de vacances sur la plage, la SOGC recommande fortement aux femmes enceintes et à celles qui prévoient le devenir d'éviter les régions où la transmission du virus Zika par des moustiques a été rapportée ou du moins de reporter leur voyage à plus tard, indique un communiqué de la SOGC publié il y a quelques jours. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit finalement d'une recommandation qui vise tous les territoires au sud du Canada, dans les Amériques, et ça comprend bien sûr les États-Unis, où l'on a recensé en Floride et ailleurs des cas de Zika dans les derniers mois. Donc cet article, si vous voulez aller plus en profondeur, apparaît dans le portail du journal Le Soleil. Zika, future maman, évitez le sud. Et ça comprend les États-Unis. Autrement, encore une fois, dans le fil de l'agence France-Presse et repris dans le journal La Presse, un corps en forme de pomme
accroît les risques cardiovasculaires et de diabète. Le risque de diabète adulte et de maladies cardiovasculaires est plus important chez les personnes qui, en raison de mutations génétiques, stockent la graisse autour de leur abdomen au lieu des hanches et des fesses, selon une étude publiée récemment. La distribution de la graisse dans le corps varie selon les personnes. Certaines la stockent dans leur abdomen et d'autres autour de leurs hanches ou encore dans les fesses, révèle le docteur Sekar Kathiseran, professeur adjoint de médecine à l'université Harvard, principal auteur de cette étude parue dans le Journal of the American Medical Association, JAMA. Nous avons observé depuis longtemps une corrélation entre l'adiposité dans le ventre et les pathologies cardio-métaboliques, mais sans pouvoir jusqu'alors rétablir de lien de cause à effet, a-t-il expliqué. Cette étude a déterminé que des prédispositions génétiques à l'adiposité abdominale accroissent bien le risque de diabète adulte et de maladies coronaires, en dehors d'autres facteurs comme le régime alimentaire, le tabagisme ou le manque d'exercice physique, a souligné le professeur Kathiseran de l'université Harvard. Donc, si vous voulez poursuivre la lecture de cet article, le titre c'est « Un corps en forme de pomme accroît les risques cardiovasculaires et de diabète ». Donc, ça concerne les gens qui stockent la graisse au niveau de l'abdomen. Et sinon, un article qui paraît dans le journal Le Devoir à propos du stress et de l'insomnie, ce sont les inconvénients du télétravail, indique-t-on. Le télétravail offre à première vue beaucoup d'avantages, comme un gain de temps et d'argent sur les transports et une vie de famille plus équilibrée, mais à forte dose, le télétravail peut nuire à la santé, a révélé il y a quelques jours un rapport de l'ONU. Ce document, rédigé conjointement par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et Eurofund, une agence de l'Union européenne, s'appuie sur des recherches menées dans 15 pays. Il fait une distinction entre les télétravailleurs à domicile, qui semblent jouir d'un meilleur équilibre travail-famille, et les travailleurs très mobiles, qui utilisent les nouveaux moyens de communication et sont davantage exposés à des répercussions négatives sur leur santé et leur bien-être. Donc, il y a une catégorie de télétravailleurs, ceux qui sont particulièrement mobiles, qui doivent se déplacer beaucoup, ceux-là sont plus à risque de surmenage, de stress et d'insomnie. C'est ce que révèle ce rapport de l'ONU, divulgué récemment. Et finalement, on parle encore de surmenage et de stress, cette fois dans le contexte de la parentalité. C'est toujours dans le journal Le Devoir. Chercher la perfection familiale peut coûter cher. Le surmenage parental touche de plus en plus de personnes. Deux chercheuses belges viennent de publier un livre sur la question. Si avoir des enfants est une source de bonheur à bien des égards, il est rare que notre progéniture ne soit pas également une cause de stress et de tension, pouvant parfois même conduire à un véritable surmenage. Une évidence pour de nombreux parents, sans doute. Sauf qu'il reste encore difficile de se départir de cette image, véhiculée largement dans la société, d'une parentalité forcément épanouissante, heureuse et positive. En réalité, les parents culpabilisent de ne pas être assez présents pour leurs enfants, de s'emporter pour des broutilles. Ils sont malheureux parce que, obsédés par le fait de devoir être de bons parents, bienveillants, attentifs, disponibles, tout simplement parfaits. Alors, c'est irréaliste, mais bien que ce soit irréaliste, ça demeure un modèle de perfection qui est largement véhiculé et ça reste le but à atteindre pour de nombreux parents. Et ses parents s'obstinent à mener tous les projets de front sans relâche jusqu'au moment où l'élastique trop tendu finit par lâcher. Donc c'est un article de la journaliste Sylvie Lojean dans le journal Le Devoir, quand le surmenage touche aussi les parents. Alors c'est tout pour cette revue de presse des actus santé et mieux-être pour cette semaine. Restez avec nous. Au retour de l'intermède musical, je retrouve Marie-Hélène Bourret. Elle est avec nous dans ce volet interview santé de la semaine pour évoquer à titre personnel, à titre de témoin, la crise des surdoses aux opioïdes qui sévit actuellement en Colombie-Britannique et ailleurs au Canada. À tout de suite. ¶¶
Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Alexis.
Alors merci de venir au studio de CILS aujourd'hui pour parler de ce problème important des surdoses d'opioïdes en Colombie-Britannique. C'est une crise qui a atteint des proportions énormes l'année dernière et même en 2015. On est en état d'urgence sanitaire ici dans la province depuis avril dernier. Le triste record de 2015 a été battu en 2016. On a eu malheureusement 914 décès par surdose. Plusieurs de ces décès ont été causés par le maudit fentanyl, qui est un opioïde très, très dangereux.
Et ça, c'est avant l'arrivée du carfentanyl.
Voilà, le carfentanyl a fait son apparition récemment. En Colombie-Britannique, alors c'est une substance qui normalement est utilisée pour tranquilliser les éléphants. Les dealers de drogue aiment utiliser cette substance parce que ça leur permet de réaliser des économies d'échelle, des économies dans le transport, puisque ça prend pas de place.
C'est un petit grain.
Les petits grains de rien qui sont ultra puissants.
Un grain peut tuer un humain.
Voilà. Donc ça se retrouve mélangé à toutes sortes de substances et l'épidémie de décès par surdose est une voie de conséquence.
Oui.
Alors, je te note un petit article qui a paru dans la presse aujourd'hui avant qu'on lance notre discussion à titre personnel.
Absolument.
Ralph Goodale, qui est notre ministre de la Sécurité publique au Canada, a déclaré que la crise des opioïdes a atteint une ampleur mondiale. C'est rapporté dans la presse canadienne en date d'hier, 14 février. Je vous lis le lead de l'article. Le ministre canadien de la Sécurité publique affirme que la crise des opioïdes au Canada et aux États-Unis est d'une telle gravité qu'elle a trouvé sa place dans la déclaration commune des leaders des deux pays lors de leur rencontre de lundi. Ralph Goodale a ainsi soutenu mardi que cette crise avait maintenant atteint une ampleur internationale. Donc, nous, on est vraiment dans l'épicentre de cette crise. On est dans l'un des foyers les plus virulents de cette épidémie de décès. Alors, aujourd'hui, on parle d'expériences qu'on a vécues à titre personnel, de citoyens dans la cité. On ne travaille pas dans le système de santé.
Non, on n'est pas médecin.
On n'est pas médecin, ni infirmier, infirmière. Mmh. On n'a jamais touché à ces drogues-là. Non. Mais à titre personnel, on est des témoins oculaires et on a vu que des gens étaient sous influence ici à Victoria parce que la crise touche Victoria. Alors, on va commencer par ce que tu as vécu il y a quelques semaines à peine, ici même à Victoria. Peux-tu nous raconter ça?
Ben, en fait, parce qu'on est au centre-ville, on le sait qu'au centre-ville de Victoria, il y a beaucoup de jeunes de la rue. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations très difficiles de survie. Et malheureusement, c'est souvent couplé avec des histoires de drogue. Je m'en allais au coin de Douglas et Yates. Il y a là une banque. Et avant d'entrer dans la banque, je vois une femme qui est arrêtée. Et elle est arrêtée avec une de ses amies devant un homme. Il y a une espèce de banc-pierre devant cette banque-là. Et l'homme, on le connaît, il joue du tambour là régulièrement. C'est un homme propre de sa personne. Alors, il faut pas croire que les utilisateurs de drogues intraveineuses, ce n'est que des gens qui sont sans abri.
Oui.
Il y a des gens, ça peut être nos frères, nos sœurs, nos mères, nos amis même qui sont utilisateurs. Et ça, c'est extrêmement important de s'en souvenir.
Oui.
Alors, la dame en question, elle parlait au monsieur, il répondait pas. Il était comme couché, appuyé dans un drôle d'angle, aucune expression dans son visage. Et je m'approche, je lui dis « Avez-vous besoin d'aide parce que j'ai mon cours de premiers soins? » Et elle dit, ben, je sais pas quoi faire. Ben, j'ai appelé le 911. Puis moi, je commence à parler au monsieur. Je voyais donc la pupille était très, très petite. Et ça, quand la pupille est comme une pointe d'aiguille, c'est vraiment un des symptômes qui a une overdose.
Oui. Okay?
Mais ça peut être d'autres choses aussi. Alors, on appelle quand même les ambulances.
Oui.
Hein? Bon. Puis pendant ce temps-là, je me rends compte qu'il respire presque pas.
Oui.
Alors, je dis, OK. Donc, il est possible que ça soit une overdose parce qu'on sait que les opioïdes, ils vont causer un ralentissement au niveau respiratoire et même un arrêt respiratoire. Et c'est souvent, l'overdose, c'est de là qu'elle vient, c'est d'un arrêt respiratoire. Alors, je parle au monsieur, j'ai dit, as-tu pris quelque chose? Il ne me répond pas, mais je sais qu'il me voit. Puis que j'ai dit, OK, look at me, just make sure you look at me, hey. Puis toutes les fois que je voyais que son regard disparaissait, tu sais, il devenait comme vide, je disais, hey, wake up, man. Wake up, look at me.
Mm-hmm.
Et je le touchais beaucoup pour qu'il y ait comme un lien avec moi. La femme, toujours au téléphone.
Là, il était allongé sur le trottoir.
Pas encore. Il est toujours assis dans un drôle d'angle sur ce banc de pierre.
Comme...
Une drôle de position. Je peux pas te décrire. Et les gens du 911 disent à la dame qui était avec eux au téléphone, allongez-le sur le côté. Alors, on l'allonge sur le côté, dans la position de recouvrement, comme on dit, pour s'assurer qu'il ne tombe pas ni d'un côté ni d'autre. Et si jamais il vomit, qui est un deuxième cycle aussi des overdoses, c'est qu'il peut avoir vomissement. Alors, s'il vomit, au moins, il ne s'étouffe pas sur ses vomissements. Et là, je me suis souvenu d'un truc. Il paraît que quand, et ça, c'est dans les trucs de premiers soins, quand quelqu'un est à moitié conscient, si tu veux qu'il reste avec toi, avec les jointures du milieu de ton poing, tu frottes sur sa cage thoracique, sur son sternum.
Oui.
Ça fait très mal. Il faut que tu le fasses très fort.
Ça fait réagir. Physiquement.
Parce que c'est une très grande douleur, mais c'est pas dangereux, là. Et en ayant fait ça une couple de fois, il s'est mis à tousser. Je me suis dit, bon, on est correct, il tousse.
Oui.
Donc, le poumon essayait de respirer à nouveau. Finalement, les gens sont arrivés, les premiers soins, très rapidement, ils l'ont pris en charge, ils l'ont intubé, ils ont mis un truc dans son bras, un soluté. Bon, quand on a vu qu'ils avaient pris charge, nous, on s'en va. Et éventuellement, quand je suis sortie, je dis, vas-tu être correct? Ils m'ont dit oui. Et je regarde le monsieur et... l'ambulancier lui dit « You're going to be all right, Tim, right? » Il connaissait.
Voilà.
Ça faisait plusieurs fois qu'il était en overdose.
Oui. On sait que, justement, à Vancouver comme à Victoria, des gens récidivent, retombent.
Ils sont accros aux opioïdes.
C'est
donc, il faut un traitement contre les opioïdes avant... d'aller vers le fentanyl, là, je veux dire.
Oui. Bon. Il faut de la prévention, il faut un traitement, il faut des salles de piquerie supervisées.
Oui, absolument.
Donc, il y a tout ça, évidemment. Je pense que tu as probablement sauvé la vie de cet homme-là.
C'est possible, mais vois-tu, moi, ce qui m'a le plus touché, j'en ai reparlé avec les gens qui ont vécu sur la rue et qui ont vu ça encore et encore, le monsieur, le Tim en question, il pleurait.
Après. Oui.
Et puis, j'ai dit, est-ce qu'il était content parce qu'il revenait? Ils m'ont dit non. Il était sans doute très triste parce qu'il n'était pas parti. Parce que ces gens-là, il ne faut pas oublier, moi, j'ai entendu des commentaires horribles, effroyables de la part des gens bien pensants, soi-disant, et qui disent ils font exprès. Un instant, là, c'est des gens qui sont dans une douleur incroyable. La détoxication de l'héroïne ou de n'importe quel opioïde est extrêmement difficile. On le voit d'ailleurs maintenant, il y a eu des articles dans les derniers jours qui disaient qu'on est vraiment inquiet sur la façon dont les médecins généralistes donnent des prescriptions pour des opioïdes.
Oui, ça a contribué à l'éclosion de cette crise.
Oui.
Pas seulement, mais c'est une des causes.
C'est une des causes.
Selon plusieurs observateurs.
Oui. T'as mal dans le dos, on te donne des médicaments avec des opioïdes dedans, t'en prends pendant 2 semaines, t'es accro. Après 3 jours, t'es accro.
Tu peux sortir dans la rue à la recherche d'un fixe.
Oui, parce que t'as plus de prescription.
D'une dose, oui, c'est
ça. Et il faut savoir aussi que l'addiction, elle n'est pas seulement au niveau psychologique, elle est physique.
Alors,
si t'arrêtes, OK, t'as besoin, t'as peut-être avoir du monde autour de toi qui vont dire, écoute, on va fumer un joint, ça va relaxer, on va aller prendre une marche, on va manger. Mais le problème, il est aussi physique. Ils ne te prennent pas en cure de désintoxication tant que tu n'as pas fait la détox physique, mais tu peux mourir de la détox physique.
Voilà. Et on revient un petit peu à ce que tu disais, il y a des gens de tous les horizons
oui.
qui succombent à ces surdoses-là,
oui.
des utilisateurs récréatifs
oui.
qui croyaient juste passer une belle soirée,
ouais.
Ils ont envie de d'un petit peu d'adrénaline,
ouais.
de vivre sur le fil un petit
ouais.
peu, mais en reprenant leur vie normale après la fin
ouais.
de semaine.
Ouais.
Et donc... Des rencontres comme celles que tu as faites, c'est courant à Victoria.
Ouais.
C'est évidemment très courant à Vancouver.
Ouais.
On avait un excellent papier le mois dernier sur le portail britanno-colombien de Radio-Canada qui relatait une nuit à l'urgence de Vancouver. Et
ouais,
il y avait...
Ouais.
Des lignes dans ce papier qui étaient troublantes. Mmh. Une jeune femme, notamment, qui avait été en mort clinique pendant 10
ouais.
minutes.
Ouais.
C'était une fille qui faisait la fête, tout simplement.
Ouais.
Elle n'avait pas vraiment le profil.
Mmh.
Et souvent, les gens qui n'ont pas le profil, justement, sont moins préparés et plus
ouais.
Susceptibles
et,
d'y rester.
Leur environnement est moins préparé aussi.
Voilà.
Moi, j'ai entendu des choses qui se sont passées ici dans Helmken Alley, qui est au centre-ville.
Oui.
J'ai vu moi-même des jeunes qui allaient se piquer et des jeunes qui font la fête, bien habillés. Tu sais, je veux dire,
mm-hmm.
pas des jeunes qu'on dit les jeunes de la rue, là, des gens sans doute très bien nantis. Hein?
Oui, oui, oui.
Et ils allaient se piquer dans Helmken Alley. Et c'est vraiment un mal de société. On va revenir au Naloxone tout de suite.
Oui, disons quelques mots sur le Naloxone.
Naloxone, pardon,
oui.
je fais un petit peu de dyslexie. Là. J'ai appelé ce matin dans une pharmacie,
oui.
dans une chaîne de pharmacie. On dit que c'est disponible à tout le monde sans question posée.
Alors ça, le Naloxone, c'est l'antidote hein, qui
oui.
permet d'inverser l'effet
ouais.
et de sauver la vie dans
Mais
bien des cas.
Mais il faut quand même